Laudetur Jesus Christus.
Reprise des congrégations générales ce matin au Vatican, ces rencontres entre cardinaux qui précèdent le conclave et qui permettent aux électeurs de mieux se connaître et d'échanger sur le futur de l'Église, et des réunions cruciales qui dureront jusqu'à mardi. 1er mai, la Saint-Joseph, lors de la messe des Novendiales célébrée hier en la basilique Saint-Pierre, le cardinal Fernandez, ancien préfet du Dicastère pour la doctrine de la foi, a salué la mémoire d'un pape François travailleur, généreux, revenant sur la manière dont il concevait le travail. Les Africains ont perdu un père et sans doute leur meilleur défenseur. C'est le sentiment exprimé par le prêtre ivoirien Donald Zagoré au sujet de la disparition du pape François. Il évoquera pour nous ses relations avec l'Afrique. En Amazonie aussi, on pleure la perte d'un défenseur des forêts et des peuples. François, avec son encyclique Laudato Si, a montré que les problèmes environnementaux de ce poumon vert de la planète dépassaient de loin les seules ONG. C'est ce que nous confiera Mgr Cotter, vicaire apostolique de Pando en Bolivie. Retour en fin de journal sur le dossier des abus qui a jalonné tout le pontificat avec des paroles fortes et des mesures pour combattre ce fléau. Malgré des avancées, beaucoup reste encore à faire pour changer les mentalités.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Après une courte pause hier à l'occasion de la fête de Saint-Joseph Travailleur, les cardinaux reprennent ce matin le chemin de la salle du Synode au Vatican pour leur 8e congrégation générale. Ces rencontres préparatoires qui leur permettent de mieux se connaître et de s'exprimer sur les grands enjeux de la vie de l'Église et du monde vont se poursuivre jusqu'à la veille du conclave. Une période de rodage en quelque sorte, avec pour objectif choisir le 266e successeur de Pierre. Romilda Ferrotto.
Un conclave long ou plutôt court, un François II ou un Jean XXIV, la rumeur et les spéculations sont bien là, fidèles au rendez-vous. D'autant que les murs de la salle où se tiennent les congrégations ne sont pas étanches et les voix passent. À l'approche du conclave, l'impatience grandit, avec elle le poids des questions sur l'avenir de l'Église catholique, dans un panorama mondial fatigué, blessé, divisé. Les cardinaux savent qu'ils vont devoir discerner, trouver un équilibre, un consensus pour mettre d'accord la lourde majorité des deux tiers. Or, le nombre des électeurs n'a jamais été aussi élevé et le prochain conclave sera plus multipolaire que jamais, composé de cardinaux de pays parfois très éloignés. Des îles du Pacifique aux steppes de Mongolie, en passant par le Maroc, la Suède ou le Paraguay, un atlas géographique de la foi dessiné par François, enrichi de différents charismes. À l'image de la géopolitique de l'Église, où le poids du sud du monde s'est accentué, contribuant à fragmenter les vieux clivages progressistes-conservateurs, une clé de lecture dans laquelle certains voudrait encore enfermer l'Église universelle. À mesure que le moment de franchir le seuil de la chapelle Sixtine approche, les cardinaux de longue date, comme les nombreux débutants, sentent qu'ils vont devoir donner à l'Église et au monde un guide à la hauteur des défis du moment. Or, rien n'est jamais acquis à la veille d'un conclave.
Romilda Ferrotto. Pas de congrégation générale hier, en revanche, pas de pause dans les Novendiales, cette période de prière de 9 jours pour le repos de l'âme du pape François. Hier après-midi, les cardinaux se sont retrouvés dans la basilique Saint-Pierre pour la 6e messe célébrée par le cardinal Victor Manuel Fernandez, l'ancien préfet du Dicastère pour la doctrine de la foi. En la fête de Saint-Joseph Travailleur, il est revenu dans son homélie sur la vision sociale du travail du pape François, qui répétait que la dignité des personnes passe notamment par leur travail. Le cardinal argentin, qui fut un proche collaborateur du pape dès la fin des années 2000 en Argentine, a rappelé l'énorme charge de travail qu'effectuait le Saint-Père jusque dans ses derniers jours, y voyant un encouragement pour chacun à vivre notre travail avec générosité. Jean-Benoît Harel.
Per Papa Francesco il lavoro esprime e nutre la dignità dell'essere umano.
Pour le pape François, le travail exprime et nourrit la dignité de l'être humain, a rappelé le cardinal Fernandez devant ses frères cardinaux à l'occasion de la fête des travailleurs ce jeudi 1er mai. Promouvoir la dignité de la personne, c'est lui permettre de gagner son pain avec les dons que Dieu lui a donnés, a-t-il poursuivi. Le jeune cardinal de 62 ans s'est mis dans les pas du défunt souverain pontife qui fustigeait la méritocratie, celle qui amène à penser que seuls ceux qui réussissent dans la vie ont des mérites, sans considérer les environnements de chacun. Il a évoqué les plus pauvres qui ont beau transpirer, mais ont du mal à survivre, invitant à s'interroger sur les difficultés des personnes les plus fragiles. Il travaillait non seulement le matin avec des réunions, des audiences, des célébrations et des rassemblements, mais aussi tout l'après-midi, s'est souvenu le cardinal à propos du pape François, qui ne prenait jamais un jour de congé complet, même lorsqu'il était en Argentine. Jusqu'au dernier jour, le pape François s'est livré à son travail, à sa mission, par exemple en allant le jour du Jeudi Saint visiter des prisonniers à Rome. François estimait, selon le cardinal, que son travail quotidien était sa réponse à l'amour de Dieu, et cette manière de travailler, celle du souverain pontife, est ainsi un encouragement à vivre notre travail avec générosité. Le Saint-Père avait pour cela comme modèle Saint Joseph. Demandons-lui de serrer notre cher pape François dans ses bras au ciel, a-t-il conclu.
Jean-Benoît Reynes, cet après-midi à 17h, les cardinaux se retrouveront pour la 7e messe des Novendiales, toujours dans la basilique Saint-Pierre. Elle sera célébrée par le cardinal Claudio Guggerotti, ancien préfet du Dicaster pour les églises orientales, avec la participation donc des églises orientales. Une messe à suivre en direct, commentée en français sur notre site internet, notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Une relation d'amour, de vérité et de liberté. C'est ainsi que le père Donald Zagoré, prêtre ivoirien de la Société des Missions Africaines, définit les liens qui unissaient, selon lui, le pape François à l'Afrique, un continent que le pape défunt a visité 5 fois au cours de son pontificat, se rendant dans une dizaine de pays. On se souvient notamment de plusieurs gestes forts, comme l'ouverture de la première porte sainte pour le jubilé de la miséricorde à Bangui, ou de ses discours à Kinshasa et à Djouba. Le pape François avait donner aussi une place majeure à l'Afrique au sein du Collège Cardinalis, créant 17 cardinaux africains. C'est ainsi un être cher que les catholiques africains ont perdu, comme nous l'explique donc le père Zagoré.
L'Afrique perd un de ses plus gros défenseurs, parce que le pape il a défendu l'Afrique à tous les niveaux. Son combat contre les politiques migratoires européennes a été un combat pour l'Afrique. Son premier voyage a été à Lampedusa. Un lieu où les migrants africains viennent en masse. L'Afrique, c'est un continent aujourd'hui fortement impliqué dans les questions d'immigration, avec un nombre considérable de morts et de personnes en état de précarité en Europe, parfois même réduit à l'esclavage moderne. On a aussi son discours prophétique au Congo, fustigeant directement les puissances occidentales dans le chaos politique, économique et sécuritaire qu'elles créent au nom de leurs propres intérêts. On l'a vu aussi en Centrafrique, côté du cardinal Dieudonné Nzapalanga, de l'imam Oumar, du pasteur protestant Nicolas. Prenez la paix, être prophète de paix. Une paix qui se construit en faisant tomber les murs. Le pape, il a été un pape des ponts. Il fallait faire tomber les barrières, surtout religieuses, exploitées pour nourrir la guerre. Le pape, il a été assez clair. On ne tue pas au nom de Dieu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné pour la cause de l'Afrique et de cette Afrique qui souffre dans son âme et dans son corps.
Des propos recueillis par Françoise Niamien. L'Amazonie aussi perd un de ses meilleurs défenseurs. Les habitants de cette vaste région du monde, à cheval sur plusieurs pays sud-américains, ont voulu rendre hommage au pape en plantant dans la terre nue notamment 13 arbres dans une zone rurale de Bolivie sur les rives de la rivière Mamoré. C'est un des principaux affluents du fleuve Amazone. Parmi les planteurs, Monseigneur Eugenio Cotter, vicaire apostolique de Pando et administrateur apostolique du vicariat de Reyes. Il revient sur la contribution de François à la protection de l'Amazonie et de ses peuples.
Sur la thématique amazonica et...
Sur la question de l'Amazonie, il a clairement indiqué à partir de la Laudato Si qu'il ne s'agit pas d'un problème d'un petit groupe d'écologistes enthousiastes ou d'un groupe d'ONG, mais d'un problème qui concerne l'humanité tout entière. Il a donc universalisé la question du changement climatique en l'exposant comme une responsabilité sociale et éthique de toute l'humanité. Ensuite, il a voulu responsabiliser les chrétiens en repartant de Saint François d'Assise en leur demandant de proposer des réponses, non pas en se basant sur une simple vision environnementaliste, mais sur l'expérience mystique du chrétien qui reconnaît le visage de Dieu comme créateur.
Monseigneur Junior Cotter, vicaire apostolique de Pando et administrateur apostolique du vicariat de Reyes, des propos recueillis par Federico Piana. C'est l'heure maintenant de passer à notre dossier. L'Église doit avoir honte, demander pardon, essayer de résoudre cette situation avec une humilité chrétienne et mettre tout en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. C'est ce qu'affirmait le pape François avant de rencontrer un groupe de 17 victimes d'abus sexuels commis par des membres de l'Église. C'était en septembre 2024, lors d'un de ses derniers voyages apostoliques. C'était en Belgique, pays qui demandait des comptes après une série de scandales. Le Saint-Père appelait alors à ne jamais couvrir l'abuseur qui, estimait-il, doit être jugé. Quelle fermeté le pape François a démontré dans ce dossier. La réponse d'Astrid Kapteng, professeur ordinaire de droit canonique à la faculté de théologie de l'université de Fribourg et membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France, la CIAZ.
Il a souvent tenu, surtout ces dernières années dans ses voyages, à rencontrer des victimes et il a demandé pardon. Et dans les réactions de ces personnes, souvent, elles étaient touchées par ça. D'un autre côté, il a su reconnaître ses erreurs personnelles. Je pense surtout à la façon dont il a géré la crise au Chili. Donc, il a fait un voyage au Chili en janvier 2018 où il avait encore du mal à reconnaître le phénomène en tant que tel et les événements qui ont eu lieu là-bas. Par contre, quelques mois après, il a dit qu'il s'était trompé dans ses évaluations.
Toujours sur l'approche personnelle, vous avez noté aussi une évolution sur la manière dont les papes analysaient les causes, les raisons de ces problématiques d'abus.
Le pape François, il a mis le doigt sur des facteurs qui sont intra-ecclésiales. On peut penser à cette fameuse lettre au peuple de Dieu dans l'Église catholique, où il a mis le doigt sur le cléricalisme en disant qu'il y a abus de pouvoir, abus spirituel et abus sexuel. Et pour lui, ça semble être un peu une pente glissante d'un facteur à l'autre.
Avec François, on prend en considération globalement le problème et non plus le cas isolé.
Le systémique, effectivement, permet de dire cette personne, on le regarde dans son contexte ecclésial. Il ne faut pas considérer les abuseurs comme des individus isolés. Mais il y a des choses dans ce contexte, un fonctionnement, il y a des mentalités ou des pratiques qui ont contribué ou qui ont permis ces abus. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Du point de vue du droit canonique, au niveau donc juridique, qu'est-ce qui a changé pendant ces 12 ans de pontificat ?
Il a publié énormément de nouvelles normes dans ce domaine. Auparavant, on visait beaucoup les prêtres ou éventuellement diacres qui avaient commis des abus. Le pape François, il a publié des documents qui visaient explicitement les évêques en tant qu'abuseurs ou alors les évêques qui ont été négligents dans le traitement des affaires d'abus. C'est un accent nouveau qu'il a introduit par ces normes-là.
Est-ce qu'il y a d'autres points pour vous, la canoniste, qui vous ont interpellé, marqué ?
Il a introduit une obligation pour tous les prêtres, les membres des instituts religieux, de dénoncer des abus s'ils en avaient connaissance. Donc ça veut dire dénoncer auprès de l'évêque du lieu, en presse.
En 2019, le pape François réunissait des présidents de conférences épiscopales du monde entier à Rome pour parler de la protection des mineurs. Il fallait qu'il y ait une prise de conscience de toute l'Église universelle.
Oui, ça a déclenché quelque chose parce qu'au moins il a attiré l'attention de l'ensemble de l'Église sur ce phénomène avec aussi l'idée qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc il voulait délibérément favoriser une culture qui combat les abus et qui prévient les abus.
Vous posez la question des résultats du bilan finalement de toutes ces actions entreprises par le pape. Certains parlent d'un bilan en demi-teinte. Pourquoi, selon vous ?
Au niveau universel de l'Église, on ne sait jamais qui fait quoi. Quelles sont les décisions qui étaient prises ? Est-ce que c'était toujours approprié ? Et là, on a des exemples qui vont un peu dans tous les sens. D'un côté, le fameux cardinal McCarrick aux États-Unis, qui avait lui-même abusé à plusieurs reprises. Donc, il a été renvoyé de l'état clérical, en fin de compte. Par contre, le père Rupnik, ce qu'on peut observer de l'extérieur, c'est au moins le père en question a été condamné. Il y a eu une sanction qui a été levée 2 ou 3 mois après. Et comme il y avait toujours des problèmes par rapport à ça, à un moment donné, le pape était obligé d'ouvrir de nouveau un procès. Donc là, il y a des décisions qui sont très variables et on ne sait pas exactement pourquoi.
Interrogée par Marie Duhamel, Astrid Kapteng était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française. Ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.fr ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.